Jean-François, bien à toi. Parle-nous de Favi et en particulier de ta vision justement de ce qu'est le défi en termes de gouvernance des entreprises aujourd'hui, que tu sois ou non d'accord avec ce qu'a proposé Isabelle.
Ben, je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, mais je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent parce que moi, j'ai toujours vécu dans une vraie entreprise capitaliste. Et j'ai une soixantaine d'émules. C'est-à-dire les émules, c'est des gens qui sont tombés sur mes bouquins, sur le site Favi, puis qui ont commencé cette démarche d'aller vers la confiance et d'abandonner le contrôle. Et en entendant Isabelle, j'ai réalisé que tous mes émules étaient soit propriétaires de leur boîte, soit des actionnaires privés et non pas au second marché. Et tous mes émules ont un, parfois qu'un seul actionnaire, ou deux actionnaires intelligents. Parce que tous les actionnaires ne sont pas stupides. Sauf au second marché. Parce qu'ils ne connaissent pas les gens, ils ne connaissent pas l'entreprise. Et là, mon témoignage à moi, c'est le témoignage de quelqu'un qui a travaillé pendant 42 ans pour un seul actionnaire, qui est un mec remarquable, qui s'appelait Max Rosso, qui a créé jusqu'à 30 sociétés, 12 000 salariés, dont la Puma, hein, qui est le plus gros marchand de fer de France, avec des principes très simples. Le pourcentage d'imbéciles est même chez les ingénieurs que chez les ouvriers. Mais un imbécile ingénieur est logique. Un imbécile ouvrier a du bon sens. Donc c'est moins dangereux. Il m'a appris qu'on gagnait plus d'argent à faire plus qu'à dépenser moins. Il m'a dit, je cherche pas à dépenser moins. Et la structure prétend toujours dépenser moins. Pousse les gens à faire plus. Parce qu'on gagne plus à faire plus qu'à dépenser moins. Il m'a appris à payer beaucoup d'impôts. Mais il paye les impôts, paye les impôts. Sois tranquille avec ton passé. T'occupes pas de ça. Ton boulot, c'est de garder toute ton énergie sur le futur. Qu'est-ce qu'il m'a appris après? Il m'a appris qu'il n'y a qu'un seul indicateur dans l'entreprise, le cash flow. Le cash flow, c'est l'argent qu'a gagné la collectivité avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions et les amortissements. Et donc, il exigeait un compte d'exploitation. Parce qu'en France, les entreprises, ils ont des tableaux de bord comme ça. Ils ne font pas de compte d'exploitation mensuel. Il s'éclaire à la chandelle. Il exigeait un compte d'exploitation tous les mois, mais pas avant le 20 du mois. Il disait, je préfère avoir les comptes juste le 20 que faux le 5. Quand je pense qu'Arcelor, j'ai déjà fait conférence chez Arcelor, ils sont très fiers de sortir les comptes consolidés le 5. Ils ont des comptes faux toute l'année, mais ils sont contents. Hein, ils font les concours. Hein, ensuite, ils sortiront le 4. D'accord. Et quand il m'a confié Favi, alors je raconterai ça plus longuement demain, quoi, parce que je crois qu'il y a certains d'entre vous que je verrai demain, il m'a pas prévenu qu'il me confie Favi. D'un coup d'hélicoptère, il m'a amené là-bas, et puis il m'a déposé. Il n'a rien dû lui dire, dans le chef, c'est lui. Puis il est reparti, son hélico. Et comme il est intelligent, il m'a déposé là-bas 4 mois, en doublure avec le directeur précédent. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit au directeur précédent, écoute, je regarde. Et j'ai vu des trucs idiots, stupides. Et alors, je savais que Max me ferait confiance. Max, il ne m'a jamais dit oui, ni non, jamais. Quand je lui disais quelque chose, il me disait, c'est pas idiot ton truc. Voilà. Il me donnait son jugement, on avait 30 ans d'écart. Il me disait, ce que tu vas faire là, c'est une bêtise. Hein. Parce que. Maintenant, tu es sur le terrain. T'es mieux placé que moi, si tu y crois, fais-le. Donc, autrement dit, tout ce qu'a développé Isabelle, ça ne tient pas dans mon système-là. Je suis dans un autre monde. Et alors, dans mon monde à moi, comme j'ai du bon sens, alors j'ai fait des choses sans faire exprès, j'ai fait. Je n'ai pas un mec qui réfléchit, moi. Je suis la dernière génération qui a grandi dans l'intuition, pendant des millions d'années, jusqu'aux années 40, 44. L'être humain était ainsi programmé pour passer de l'intuition à l'action sans passer par la réflexion. Le paysan, quand le blé était mûr, regardait le vol des hirondelles. Intuition, faut moissonner. Quand on ne sait pas, on va venir le produire, on va faire des tables de mise-plomb, etc. D'accord ? Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, chaque fois que je voyais un signal faible, ça déclenchait une action. Et parce qu'un ouvrier fermait la fenêtre et qu'il faisait chaud, je discutais avec l'ouvrier, je lui disais, mais pourquoi on ferme la fenêtre, il fait chaud ? Je savais qu'ils avaient jusqu'à 25% de prime. Et ce que je ne savais pas, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il fermait la fenêtre parce qu'à 15h, le contre-maître de fonderie relevait la température, et c'est la température moyenne du mois qui fixait la hauteur de la prime de chaleur. Signal faire intuition, on est con. Je réunis les yeux, j'attends, c'est stupide votre truc. Et je la fais bref, je dis, je viens d'arriver, j'ai rien foutu, on m'a filé une prime. Et si on prenait ce que chacun depuis 2 ans et qu'on mettait dans le salaire, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai agi. J'ai pas réfléchi. Et là, les cadences sont montées de 20 à 30%.
Et là, j'en ai conclu qu'il fallait arrêter de réfléchir, qu'il fallait rester dans l'instinct de conservation, qu'il fallait dans le réflexe, qu'il faut respecter son intuition. Parce que si j'avais fait un groupe de travail, j'aurais jamais pensé qu'on ferait 20-30% de trucs. Il faut faire sans dire ce qu'on va faire. Il faut arrêter les grandes réunions, les trucs, les machins. Max, je lui ai fait un rapport écrit, j'ai 23 ans. Il a poussé sur le coin de la table, mais je ne sais pas lire, raconte. J'ai passé 42 ans de carrière sans faire un seul rapport écrit. Et sans demander un seul rapport à un collaborateur. J'ai passé 42 ans de carrière sans faire aucune réunion formelle. Quand il y a un problème, on fait une réunion. Aucune réunion. Max ne faisait jamais de réunion. Parce que quand on écrit, on réfléchit à ce qu'on va dire. Il n'y a pas de signaux faibles. En réunion, on réfléchit à ce qu'on va dire. Il n'y a pas de signaux faibles. Quand on fait son tour du terrain, quand on va sur le terrain de l'autre, quand on va dans le bocal de l'ouvrier, quand on parle hobby avec lui, quand on a position d'infériorité, le mec qui est passionné de chevaux sera toujours beaucoup plus fort que vous sur les chevaux. Parlez cheval avec ce gars-là, il sera plus fort que vous. Sur son terrain, il faut être lâche pour faire monter quelqu'un dans son bureau, parce que les bureaux sont toujours en hauteur, bien entendu. Le mâle dominant dort toujours en hauteur. Les 5 millions d'années de chasse. Alors ça donne quoi ce système-là? Intuitivement, j'ai pas fait exprès. Après, j'ai compris. Moi, j'ai fait ça en 83. Puis en 88, je rentre dans un club de patrons qu'on appelle l'APM. En 90, mes copains de l'APM viennent me visiter, puis ils me disent, mais tu travailles pas comme tout le monde, toi. Viens nous expliquer. Et c'est là qu'il a fallu que je comprenne. Et j'ai compris, j'ai fait des choses intelligentes, sans faire exprès. J'avais compris que la base de l'entreprise, c'est la valeur ajoutée. La première entreprise, ça a été la meunerie, quand on a commencé à transformer le grain en farine. Après, il y a quelqu'un d'autre qui prend la farine pour faire du pain. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est la base de l'entreprise. Donc les gens les plus importants sont les gens qui ajoutent de la valeur. Chez nous, ce sont les ouvriers. Donc les gens les plus importants de l'entreprise sont les ouvriers. J'ai compris qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et que le bonheur des uns, c'est le malheur des autres. Et c'est ma faute, je vais expliquer ça après, tout à l'heure. J'ai créé une race de parasites, les contrôleurs de tout craint. Alors c'est pas ma faute, on vient d'un temps, mais des millions d'années, où tout le monde crée de la valeur, et que de la valeur. Même le chef de tribu, je pense, le néandertalien chassé. Pendant toute l'ère de l'agriculture, tout le monde cultivait, à la noblesse près. Mais le clergé, il y avait une grande masse du clergé, ce qu'on appelle les frères et les sœurs converts, qui cultivaient. Et jusqu'à une époque récente, et c'est ce phénomène de fin de cycle qu'on a, c'est pas une crise, c'est une fin de cycle. Dans la part de l'agriculture, tout ce qu'on produisait était vendu, puisqu'on était en déficience alimentaire. Il y a à peine un siècle, même pas, qu'on mange à sa faim en Occident. Je parle de l'Occident, je parle pas du monde. Donc le commerçant ne servait à rien, puisque tout ce que je produisais était vendu. Et moi, j'ai pas fait la guerre, qui était le cycle de 40 ans, tout simplement parce que mon fin de cycle, moi, je devais faire la guerre. C'est pour ça que j'ai calculé mon coup pour être capitaine, il ne faut pas être idiot, a coïncidé avec la fin de cycle de l'agriculture, où ils sont passés de 70% de la population à 4-5%, et j'ai récupéré ces gens-là pour les mettre dans les usines, pour faire des frigidaires, des machines à laver, des automobiles, concepts qu'on connaissait avant-guerre. Et là, j'ai ramorcé la pompe de plus de consommateurs que de producteurs. Le monde entier voulait des frigidaires, etc. Et la bêtise que j'ai fait les choses très bien. J'ai désinventé la guerre. Il n'y aura plus jamais de guerre mondiale. On ne sait plus ce que c'est que la patrie. On n'a plus d'armée. Nous, pour les occuper, on les va au Mali faire les clowns, etc. Hein, c'est surtout pour la mégalonie, la mégalo d'un fou qu'on a. Ça, c'est un autre débat. Et j'ai pris une conscience écologique. Je suis la première génération qui a pris une conscience écologique. Mais la connerie que j'ai faite, c'est quand j'ai vu qu'un ouvrier s'achetait une voiture, ce qui était impensable ce truc, qu'un ouvrier s'achetait une maison, j'ai cru que ça allait durer. Et je suis passé du management de l'incertain, qui était... pendant des millions d'années, manager, science des hommes par les hommes pour les hommes. L'incertain, deux incertains, manger, notre Père qui êtes aux cieux. Donnez-nous notre pain quotidien. Notre prière à nous, à notre bon Dieu, on ne lui demande pas le bonheur, mais on lui demande à bouffer. Deuxième incertain, où et quand la prochaine guerre? Je savais avec qui. Nous, la France, qui est un vieux pays, on a beaucoup bricolé avec les Espagnols, puis après avec les Anglais, après avec les Teutons, là c'est les Cosaques. Je savais avec qui, je ne sais pas où et quand. Et je suis passé du management de l'incertain à la gestion en sciences des chiffres du certain. Et j'ai commencé à faire des business plans, des prévisions, mais c'est stupide, elles n'ont jamais marché. Quand on chassait, il n'y a pas de prévision à faire, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on prend ce qu'il trouve. Quand on récoltait, il suffisait de l'orage pour que... On a toujours été dans le certain. Et j'ai cru, et j'ai inventé cette nouvelle race des contrôleurs. Et HEC, ce n'est pas hautes études commerciales, ils ne savent pas vendre ces gamins-là. c'est aux études de contrôle. Et cette fin de cycle-là, c'est comme à ce moment-là, c'est les contrôleurs qui ont pris le pouvoir, ce qui est paradoxal. C'est pas le mec qui produit, c'est pas le mec qui vend, c'est le mec qui contrôle qui est le chef maintenant. C'est le directeur financier, le rétroviseur. Parce que le moteur de la voiture sont les ouvriers. Le phare, c'est les commerciaux et les bureaux d'études. Les financiers, c'est le rétroviseur, ce qui s'est passé hier. Et ceux qui ont pris le pouvoir. Et comme ils ont pris le pouvoir, quand les ventes ont commencé à baisser, parce que le monde entier solvable est équipé en frigidaire, machine à laver, 15% de rendement. Oh non, c'est 15% de rendement. On a été donné notre savoir durement acquis, contre rien, au monde entier, dans les Chinois. Et on ne fera plus de téléviseurs en France. On ne fera plus de machines à laver en France. Et les Chinois n'exportent pas encore. Les Chinois nous renvoient les produits qu'on sous-traite. Autrement dit, cette fin de cycle se caractérise par deux choses. La première, c'est que pour un temps très long, il va y avoir beaucoup plus de production que de consommation, ce qui n'est jamais arrivé. Et deuxièmement, on a 30 à 40% de gens dans les entreprises qui empêchent les autres 60% de travailler, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Et Favier, sans faire exprès, moi, j'ai senti ces choses-là. Donc j'ai dit, il faut que les ouvriers soient heureux. Donc j'ai recasé les régleurs et les contrôleurs, qu'il fallait qu'ils soient heureux aussi, meilleurs. Et puis j'ai dit aux ouvriers, mais vous savez régler et contrôler. Oui, ben faites-le. Et puis on a fait 20% de pièces en plus. Quand on fait 20% de pièces en plus, sans investissement, sans salaire en plus, ben, votre cash flow, c'est on fait quasiment du 20% de cash flow. Je supprime les primes, 30% de commandes en plus. Et c'est pour ça que nous, équipementier automobile, un métier où on baisse ses prix de vente. Pas ses coûts, parce que baisser ses coûts, tout le monde sait faire ça. Hein. Et baisser ses prix de vente, c'est autre chose. Faire 20 à 25% de cash flow, ça vient de là. Et puis mes ouvriers, après j'ai compris un truc, mais attends, pourquoi prime le comment? Avant de savoir, de me poser la question, savoir comment je vais me marier. Parce que je me pose la question, savoir pourquoi je me marie. Et avant de me poser la question, savoir pourquoi je me marie, il faut peut-être savoir pour qui. Or, l'entreprise qu'on a à l'heure actuelle, tout est basé sur le comment. De façon mais ridicule, grossière, stupide. Hein. Quand vous prenez le schéma classique d'une entreprise, c'est un bordel de ce genre-là. Hein, qui, c'est la cascade du comment. Comment. Tous ces mecs-là seraient incapables de faire ce qu'ils dictent. L'ouvrier produit parce qu'il désobéit, le mec. Alors, regardez le lapsus qui est intéressant. Ça a été fait sous PowerPoint, ça. Vous faites un petit bonhomme sous PowerPoint, qui est un vieux logiciel. Vous le passez sous appel, ça transforme les hommes en euros. N'y est pas. On est passé du management à la gestion. Donc pour mes ouvriers sages, pour qui ils travaillent? Bon, on a fait des mini-usines. 30, 40 ouvriers qui savent pour qui? C'est Fiat, c'est Volkswagen, c'est les compteurs d'eau, c'est les moteurs électriques, parce qu'on fait autre chose. Des élèves qui tuent les bactéries, on équipe les hôpitaux. Donc chaque mini-usine, c'est pour qui ils travaillent? Pour qu'ils sachent pourquoi, j'ai mis le Telex, à l'époque, maintenant c'est l'ordinateur, au milieu des machines. Et les commandes arrivent directement sur les ouvriers. Et je vais tous les matins, vous regarderez. Et je vous fous la paix sur le comment. Faites comme vous voulez. Vous pouvez bouger les machines, vous pouvez améliorer les machines, vous pouvez... Débrouillez-vous. J'ai compris qu'il fallait prôner sans organiser. C'est le défaut de ton raisonnement. Tu cherches à organiser les choses. Il faut prôner sans organiser. Et mes ouvriers ne sont pas idiots, qu'est-ce qu'ils ont fait très vite? Ben, j'ai remarqué ces jours les mêmes qui étaient de nuit. Et c'est une faveur d'être de nuit. Parce que le gars, il a un projet, il retape une maison, un bateau, puis il a les primes de nuit. Pendant un an, deux ans, trois ans. À la journée, les dames alternaient tous les six mois, parce que certains préfèrent le matin, etc. Et j'ai remarqué aussi que les gars changeaient de poste toutes les heures. Dans l'entreprise classique, hein, qu'on connaît, alors qui est représenté comme ça, de façon magnifique, extraordinaire, je n'ai pas le temps de vous semer, c'est vraiment aberrant ce truc-là. Hein. Le pauvre gars qui est là, il sera là pendant une année, deux années, quoi. Bon, mes gars, ils changent de poste toutes les heures, c'est redoutable ce truc. Ils ont une vue globale du process. Comme chez nous, on les pousse à modifier leur machine, c'est les ouvriers. Les ouvriers ont quatre polyvalences. Ils produisent, ils règlent, ils contrôlent et ils modifient leur machine. Ils ont une autre polyvalence, c'est qu'ils connaissent tous les postes. Une troisième polyvalence, c'est qu'à peu près tous les deux ans, on a remarqué qu'ils changent de mini-usine. Donc un gars qui est depuis 10 ans chez nous, il connaît 5 mini-usines. Il peut naviguer dans tout le truc. Donc l'ouvrier qui est là, quand le contrôleur passe, parce que lui, il n'a pas le droit de contrôler, hein, qui voit une pièce mauvaise, vous voyez le bordel? Tout le monde s'arrête, on arrête la chaîne, chef de ligne, truc, machin, on fait une réunion, hein, le rapport de truc, action corrective, etc. Chez moi, le gars qui voit une pièce mauvaise, il dit merde, il va voir son copain. Arrête, t'as pris 3 dixièmes sur la tête numéro 3. Et il corrige le truc et personne n'en rêve. Quand il modifie sa machine, il a une vue globale du process. Le bureau d'études, quand il modifie une machine, il fait bordel dans le process parce qu'il n'a pas une vue globale du process. Après, j'ai des commerciaux. J'en ai 13, là où mes confrères en ont 3. Et moi, les commerciaux, ils sont mieux des machines. Ceux de mes confrères, ils sont à Paris. Il y en a un pour l'export, il y en a un pour la France, et le troisième qui est directeur commercial qui fait chier deux autres à 50%. À quoi sert un directeur commercial? J'ai jamais compris. C'est comme les RH. Les RH, je suis désolé, c'est moi qui ai inventé ça. Les RH, ça veut dire rendre heureux. Et ces gens-là rendent les gens malheureux. On n'en parlera plus longuement demain. Et mes commerciaux, moi, ils prospèrent. Alors personne n'a d'objectif chez nous. Tout le monde a le même objectif. Toujours plus c'est mieux pour moins cher pour mon client interne ou externe à un en cours, dans notre village. Toujours plus c'est mieux. Chaque matin, chacun doit se demander ce qu'il peut faire de plus et mieux et de moins cher, soit en interne pour son voisin d'après, la fonderie pour l'usinage, soit pour le client. Personne n'a de prime. On a tous la même prime. Le DG a au centime près, et c'est la seule prime que l'ouvrier. On prend 6% du cash flow quand on partage l'égalité. Les bonnes années, les ouvriers ont 18 mois de salaire. On fait la différence par le salaire. Quelqu'un de bien, on lui donne 25% d'augmentation. Quelqu'un de pas bien, c'est zéro. D'accord ? Donc les commerciaux n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de prime. Prospectent comme ils entendent, ils prennent leur billet d'avion, on vérifie pas on vérifie rien chez nous. Et on leur donne la possibilité de faire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que le même commerçant qui va aller chez Fiat, dès la négociation, va commencer à imaginer le flux, les machines. Et c'est lui qui fera la gamme. C'est lui qui décidera, dans le groupe de travail avec les ouvriers, hein, sur quelle machine, comment on voit les machines, etc. C'est lui qui fera la gamme, c'est lui qui fera la remise de prix, sans aucun contrôle. Et c'est lui qui choisira les machines. C'est lui qui choisira les fournisseurs. C'est lui qui négociera les prix. C'est lui qui fera les audits, qualité, capacitaire, etc. Vous voyez, le commercial, alors le commercial a son bureau au sein de la mini-usine. Je viendrai plus longtemps demain. Après, on a un gros BE. Alors ça aussi, c'est original. On a un BE que mes confrères, généralement, bataillent, 600 personnes. On 400 mecs au BE, 6. Nous, on en a 25 et ils sont en équipe. Il y a 30 ans, j'ai décidé que c'est nos cerveaux qu'il fallait mettre en équipe. Les ingénieurs des mines, moi qui commence à 5h du matin jusqu'à 13h, et d'autres qui viennent de midi jusqu'à 21h, je crois, pour qu'ils se chevauchent. C'est redoutable, c'est parce qu'on n'a pas deux regards sur une étude, on en a plusieurs, parce qu'il y a le regard du gars qui est allé dormir, qui vient, etc., etc. C'est en grande partie comme ça qu'on s'est développé. Donc vous voyez, beaucoup de commerciaux, des ouvriers, aucun service, on n'a plus de service qualité. On fournit 60% du marché automobile européen, dont des gens comme Audi, Volvo, etc., on n'a pas de service qualité. Parce que le service qualité, c'est des braves gens. Et pour s'occuper, ils font vraiment des indicateurs qui riment à rien. Interjet moyen par atelier. Les outils de la qualité sont des outils d'auto-organisation. C'est un problème entre l'ouvrier et sa machine, le TPM, le SPC, tout ce que vous voulez, les AMDEC, etc. C'est les ouvriers eux-mêmes qui font les AMDEC. À condition que l'ouvrier comprenne les outils. C'est pour ça que si vous faites favi.com, il y a le système et il y a outils. J'ai réécrit en judéo-chrétien picard tous les outils de qualité que je connais, de 70 ou 80, parce qu'il était incompréhensible. D'abord, le japonais est une langue très compliquée, il n'y a pas de pronom personnel. Et donc la traduction, faite par des grosses têtes, était incompréhensible, même pour moi. Et je voulais que l'ouvrier comprenne. Pour que l'ouvrier puisse utiliser le TPM à sa guise, pour progresser lui-même. Donc on a des commerciaux, des ouvriers, un gros BE, 8 administratifs sur 600, il y a une standardiste, il y a 5 comptables, il y a un informaticien, et Hervé, qui fait responsable administratif, financier, comptable, qui s'auto-proclamait RH. Donc voilà Fabi. Alors Fabi, on parle d'autre chose. Quand c'est la première usine que j'ai créée, l'objectif que j'ai fixé, j'ai dit il faut que Peugeot vous aime. Je n'ai pas parlé de tonnes, je n'ai pas parlé d'argent, parce que si Peugeot vous aime, on créera des emplois dans le village. Si Peugeot vous aime pas, les mecs, on est mal barrés. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui livre en retard. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne respecte pas le délai. Ça fait 30 ans qu'on n'a jamais livré en retard. Parfois, toute l'usine a travaillé le samedi dimanche parce qu'un commercial s'est marché sur les lacets. Mais on n'a jamais livré en retard. Quand on n'est jamais en retard, tu n'as pas besoin de planning, tu n'as pas besoin de lancement, etc. D'accord ? Donc, on raisonne et on parle que... Alors, on a trois indicateurs, mais c'est largement suffisant. Alors, ça aussi, c'est bouffon. Je fais beaucoup, beaucoup d'interventions. Moi, je fais que témoigner. Je fous le bordel et après, je m'en vais. Je sais pas quoi. J'ai des gens qui veulent m'obéir. Moi, j'en connais. Hein. L'année dernière, j'ai eu 112 demandes d'intervention. J'en ai fait que 70, parce qu'il faut que je profite de ma retraite, quand même. Et alors, j'étais étonné dans des gens comme Chanel, des gens comme ça. Là, j'ai fait une intervention la semaine dernière. Je sais plus. Attends, je me souviens, on reviendra. Les gars qui font les radars pour les mirages. Enfin, des domaines assez particuliers. Parce que les gens perçoivent qu'on est en fin de cycle. Et que le management par la structure, ça n'a jamais marché. Mais on gagnait tellement d'argent qu'on pouvait se permettre ce truc-là. Maintenant, on ne peut plus se permettre. En France, on est à 3000 chômeurs par jour, en ce moment. L'année dernière, on a démarré à 500 en début d'année, on est à 1000 en juillet, on est à 2000 en novembre. En ce moment, on a 3000 chômeurs par jour, 1 million par an, 90 000 par mois. C'est tous ces gens qui sortent du site de la fabrication, parce que c'est les boîtes hyper contrôlées, qui ne sont plus rentables. Le coût du contrôle est devenu largement supérieur au coût des déviances qu'il pourrait y avoir s'il n'y avait pas de contrôle. C'est évident. C'est évident. Hein, on a perdu le bon sens. Et certains, plus intelligents que moi, comme Isaac d'ailleurs, comme Seriex, comme Portnov, disent, et parmi les émules aussi, disent, voilà les sociétés qui vont passer de l'autre côté du point de bascule. On est là, c'est un point de bascule. Il y a une parenthèse qui se ferme, la consommation-production. L'autre parenthèse, on ne sait pas ce qu'elle est. Nos politiques nous parlent de la reprise. Il n'y aura pas de reprise. Il n'y aura pas de reprise. Ce n'est pas une crise. Une crise, ça démarre toujours d'un petit truc, Lehman Brothers. Dans le couple, c'est une connerie, la salade est mal assaisonnée. On s'engueule, on se balance à la figure des choses qui n'ont plus rien à voir avec la salade, puis tu as une sortie de crise, on reprend quoi. Là, la gonzesse, elle est partie. La consommation-production, elle part en Chine. Et nos politiques sont incapables d'imaginer une autre société. Et le problème des responsables d'entreprise, c'est de faire en sorte que nos boîtes passent de l'autre côté. Alors nous, on a une chance colossale, on a Hollande. Il a décribilisé tous les politiques. Maintenant, les citoyens comprennent qu'on ne peut pas compter sur eux. Il y a des mouvements citoyens qui se créent. Hein, il y a nous, citoyens, des mouvements citoyens qui se créent. D'accord ? Deuxièmement, il est en train de foutre la France en genoux. Alors, on est au niveau de la Grèce d'ici peu. Hein. L'année dernière, la France a 300 milliards de recettes, et on a dépensé 600 milliards. Et il ne met pas en cause. Alors, c'est stupide. Valls, là, il a fait un grand plan d'économie. Ce n'est pas des économies, c'est de non-augmentation qu'il fait. Il n'augmente pas les retraites, mais il ne fait pas d'économie. C'est-à-dire qu'on aura le même déficit. Donc, je pense que comme on a quand même... J'ai rien contre les Grecs, c'est vraiment pas péjoratif vis-à-vis des Grecs. Hein. Mais je pense que la France va être la Grèce de demain. Parce que les emprunteurs, les bailleurs de fonds ont pu nous prêter. Si ce n'est qu'on a un potentiel, on est encore capable de faire des Airbus et des TGV. Je crois qu'on a quand même un potentiel, et ce n'est pas péjoratif, vous avez les Grecs, c'est pas ça que je veux dire. Hein, mais on a peut-être des ressources qui nous permettront de rebondir. Et ce faisant, on sera peut-être la première entre la société à passer de l'autre côté de ce point de bascule. Une évidence, la confiance doit renforcer le contrôle. On n'a pas le choix. On n'a plus les moyens. Toute l'innovation, vous savez que 70% des gains de productivité, tu parles d'innovation, bien sûr que c'est la base. On confond la recherche et l'innovation en France. Chaque fois qu'il y a un élu, président, il met de l'argent au CNRS. Le CNRS n'a jamais créé un emploi ni un produit. Il augmente le niveau de connaissance. Il en faut aussi. Lisez la vie de Bill Gates, de Steve Jobs. C'est le mec qui innovait et qui après allait voir les gars qui faisaient la recherche. D'accord ? Nous, 70% des gains de productivité viennent des ouvriers. Parce qu'on demande aux ouvriers de passer à l'acte. On n'a pas de bourse à idées, arrêtez ces bêtises, là. Ce sont des ingénieurs qui jugent des idées d'ouvriers. Puis de quel droit quelqu'un peut juger l'idée d'une autre? Nous, on demande aux idées des ouvriers de passer à l'action. Comment on arrive à baisser les coûts? C'est par les ouvriers, c'est pas par le bureau d'études. Le bureau d'études met en musique les idées d'ouvriers. Parce qu'entre l'idée de base, puis après que ça rentre dans le cahier des charges, etc., il y a du boulot. Mais les évolutions machines, c'est les ouvriers eux-mêmes qui font ça. Ils achètent les trucs, les composants. Et c'est la liberté totale. On ne s'est jamais posé la question de savoir combien ça coûtait, ni combien ça rapportait. J'ai jamais vu un ouvrier en 30 ans faire quelque chose de pas rentable. Le bureau d'études faire des machines à 300 000 euros qui n'ont jamais marché, ça j'ai vu par contre. Hein. Et plus elles sont chères, plus on veut les faire marcher. Heureusement qu'il faut avoir un patron quand même qui dit bon, on arrête les conneries, on la peint toutes les couleurs, on la met sur la pelouse parce que c'est joli, ça ferait une statue un peu chère, mais on n'en parle plus. Boum. Donc, vous voyez les principes de Favi, ils sont basés sur des choses simples. Si on fait 20% de cash flow, ce n'est pas l'objectif. C'est le résultat. On confond le résultat et l'objectif. C'est stupide. Nous, l'objectif, c'est le bonheur de l'ouvrier, c'est le bonheur du commerçant, c'est le bonheur de chacun. Si tout le monde est heureux, on fait 20% de cash flow. Ça tient qu'à ça. Vous voyez, c'est des choses très simples qu'on décline. Je vous passe un petit film. Un tout petit film qui dure 3 minutes parce qu'il résume tout ce qu'on a fait à Favi sans faire exprès. Attends, il faut que... Attends, toc. Oui, mais c'est la vie, ça. Je crois que c'est l'essentiel du message que je vais vous passer demain. C'est pas ce que j'ai fait. C'est comment je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je sortais de mon bureau. Sortez, bon sang, sortez. Allez au-devant du destin au faible. Allez sur le territoire de l'autre. Allez là où il a pissé. Hein? Et puis parce que quand je sortais, quand il y avait une intuition, j'agissais. Je ne pensais pas à réfléchir. Hein? La réflexion tue l'action. Moi, je suis resté un homme de métaction. Je suis un con qui avance. Et un con qui avance ira beaucoup plus loin que des intellectuels assis. Alors c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Quand j'ai cru que ça allait durer tout ça, c'est moi qui ai fait les écoles de contrôleurs. Et j'ai imposé deux valeurs limites. L'homme est bon, pas l'homme est bon. Tout prévoir, zéro risque. Tout prévoir, zéro risque. Vous êtes incapable de faire quelque chose sans tout prévoir, zéro risque. Et cette manie de prévoir, c'est ridicule. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Notre clown, là, qu'on a, qui s'appelle Hollande, jusqu'au mois de novembre, prétendait qu'on ferait 3% de déficit. On a fait 4,6% de précision. Mais qui ferme sa gueule, putain. Quand on se gourde de 50%, on ferme sa gueule. Et il continue. Ah ben, on fera ça. Mais tout est imprévisible. Est-ce que vous avez remarqué que Twitter a tué Gutenberg ? Dans le temps, il y avait les copistes. Tant qu'il y avait les copistes, l'église catholique romaine peinarde. Hein. Avec Gutenberg, t'as un original dans un village paumé qui dit « Est-ce que la Vierge est vraiment Vierge ?» Ça foutu un bordel tel, ils sont encore sur la gueule en Irlande avec ça. Et là, récemment, il y a Madame Bedia Hamdi, petite policière sud du Bouzid, village paumé, elle raquettait un peu tout le monde, comme ça se fait dans ces pays-là, quoi, notamment M. Mohamed Bouazizi. Elle lui piquait sa balance, t'as un vendeur de fruits et légumes, et en échange d'argent, elle lui rendait sa balance. 4 fois suite, il se laisse faire. La cinquième, elle réclame l'équivalent d'une semaine de boulot. Il refuse, elle le gifle. Le mec jeune musulman giflé par une femme en public s'immole par le feu. Kadhafi, boum, Ben Ali, boum, l'Égypte, boum, la Syrie, boum, la Turquie demain, boum, une gifle. Twitter a tué Gutenberg, parce que Ben Ali, il tenait Gutenberg, il tenait la presse, la télévision, la radio. Et l'information était vraie. Alors, j'aimerais bien savoir où sont tous les business plans qu'ont pu faire les gens sur le développement de l'Égypte, des trucs et du machin. Demain, une information fausse peut foutre le feu aux portes n'importe où. Et pendant ce temps-là, quand tu vas faire les prévisions, alors bien sûr qu'on fait un budget, c'est pour faire les taux de machine. Et le budget, alors ça, ouais, le summum du surréalisme, j'étais copain, enfin peu importe son nom, le directeur des chantiers de l'Atlantique, un polytechnicien bien câblé par contre. Il dit cette année, c'est les 3 fois que je vais faire le budget. Je dis, attends, répète-moi ça. Ben oui, j'ai fait le budget. Je dis, attends, le budget, c'est une prévision, une collectivité, enfin à un moment donné, de ce qui va se passer l'année prochaine. Si tu le fais refaire, c'est une incantation. C'est plus une prévision. Elle m'arrête avec ses grands yeux de polytechnicien. Ah ouais, c'est pas idiot ton truc. Oui, mais ce qui m'avait prévu, c'était pas ce que je voulais. Ben, si ils ont prévu ça, c'est que parce qu'il y avait, ça se passait comme ça. Donc il faut que tu agisses en comptant. Donc nous, chaque commercial, en décembre, la boîte où je suis intervenu là, je crois que Marcelo, c'est pas. Il commence à faire le budget l'année suivante, en juin, dis donc. En juin, l'année avant. Nous, on demande à chaque commercial qui pense qu'il va vendre, à quel prix, quelle quantité, ce qu'il pense, le pauvre, quoi. Hein? On ne discute pas ça, on met ça dans l'ordinateur, il n'y a qu'une répartition, et c'est l'ordinateur qui sort les taux machines. Le budget ne sert qu'à faire les taux machines. Alors si on a prévu 400 000 euros de publicité, c'est pas parce qu'on a prévu 400 000 euros qu'on fera 400 000 euros, ça se trouve peut-être 200 000, on fera 800 000, on s'en fout. J'ai connu des gens, moi, dans les public, qui achetaient des machines 4 fois le prix en pièces détachées pour respecter le budget, parce que ça passe en frais, et par l'investissement. Non, mais rigolez pas. Et on rit de tout ça. Mais vous n'êtes pas sensible à ça, vous, ici, parce que vous êtes moins sur le déclin que nous. Mais 3000 familles par jour, vous n'avez pas 3 familles par jour qui basculent dans une autre dimension. Tu te rends compte ce que c'est que le chômage, toi? Moi, j'ai jamais mis personne au chômage. J'ai licencié des mecs parce qu'ils avaient vraiment joué les cons, mais il faut vraiment faire beaucoup. Hein? Mais se vendre comme un esclave, 3000 familles par jour en France, où le chef de famille rentre, dans les vacances, c'est fini, la maison, on ne sait pas ce qu'on pourra, là, là, là. Ouais. Cette fin de cycle, elle est hyper douloureuse. Bon, c'est mieux qu'une guerre, tu l'as fait entendu. Hein. Alors, c'est mieux qu'une guerre. Enfin, elle est réelle, cette fin de cycle. Et malheureusement, je pense que tant que tous ceux qui restent en contrôle à part la fonction publique. Et eux aussi vont être mis en cause dans ces quatre matins, parce qu'on ne peut pas continuer à les nourrir comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est... Je ne sais pas comment vous êtes, vous, chez vous, mais on a... la plus grosse entreprise au monde, après l'armée chinoise, c'est l'éducation nationale française. Ouais. Attends, ils génèrent 13% d'illettrés chaque année, quand même. Hein. C'est énorme, hein. 13%. 13% d'illettrés. À 16 ans, ils sont des gamins de 16 ans, ils ne savent pas lire et écrire 13. Alors 13%, ce n'est pas beaucoup. Quand tu penses que dans les entreprises, on en a un PPM, on fait un frigidaire par million qui ne marche pas. Là, c'est 135 000 enfants par million. Là, ça frappe. Hein. Ils sont que 500 000 enseignés sur le million. T'as 500 000 qui sont dans les bureaux qui font chier les autres. Les hôpitaux publics, c'est pareil. Les entreprises, c'est en partie pareil. On n'a plus les moyens d'avoir ces trucs-là. Alors, le petit film que je vais vous montrer, il est bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je regrette. Ça a été fait par un enseignant-chercheur de Lyon, de l'UN de Lyon. Eh ben, pourquoi tu peux te connecter, toi? Ah si, ça y est, c'est fait. Connecté. Donc.
Rendre le travail visible, la solution pour sortir de la crise. Pour que le travail crée de la richesse, il doit réunir trois dimensions. Une dimension subjective, car il est réalisé par des personnes qui s'investissent et qui s'épanouissent plus ou moins dans leur travail. Une dimension objective, car il produit un résultat. Et une dimension collective, car on travaille toujours en lien avec un collaborateur, un client ou un fournisseur. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne voient que la dimension objective du travail et mettent au second plan les deux autres dimensions. En effet, les managers se concentrent sur les résultats financiers à atteindre en fixant des objectifs chiffrés. Nombre d'heures à réaliser, de pièces à produire ou de clients à servir. Ces objectifs chiffrés, souvent individuels, ne favorisent pas l'épanouissement des salariés et la richesse du travail en équipe. Ils sont alors moins enclins à fournir un travail de qualité et, comme les relations avec leurs collaborateurs sont limitées, leur créativité n'est pas stimulée. Une partie des capacités de l'entreprise est donc amputée. C'est une des conséquences de la financiarisation des entreprises. Pour compenser cette perte, les managers ont fixé des objectifs quantitatifs encore plus élevés. Un cercle vicieux s'est alors installé. Depuis quelques années, l'augmentation constante des objectifs a atteint un plafond. D'abord, parce que les capacités humaines sont limitées. Les salariés ne peuvent donc pas toujours travailler plus vite. Ensuite, parce que l'augmentation du rythme de travail risque de dégrader la qualité du travail produit. C'est cette mauvaise gestion du travail qui est la cause profonde de la crise économique de 2008. Il faut donc totalement repenser le management du travail en s'intéressant au travail réel des salariés. Pour cela, les managers devront créer des conditions de travail favorables à l'épanouissement des collaborateurs et où chacun comprendra mieux ce que fait l'autre. Les salariés fourniront ainsi un travail de qualité et seront source de créativité indispensable à l'entreprise pour se développer. Enfin, il sera nécessaire de repenser l'organisation hiérarchique. Il faudra limiter les validations intermédiaires en donnant davantage de pouvoir décisionnel aux personnes qui créent de la richesse pour optimiser la qualité des prises de décision. C'est donc en redonnant au travail de la visibilité et en le replaçant au cœur de l'économie que l'on sortira de la crise.
Alors, vous voyez, Isabelle a beaucoup parlé d'objectifs et d'argent. Moi, je vous parle que de subjectif et de collectif. Hein. Je vous parle que de ça. Hein. Ça, c'est la résultante du subjectif et du collectif. C'est pas l'objectif, ça. C'est la résultante. Hein. Ces gens-là étant heureux, ils proposent de faire des cerises. Ils sont à une amélioration de la force de travail. Alors, le point fondamental, c'est ça. C'est ça le point fondamental. Parce que moi, quand j'ai fait ça en 83, les contrôleurs venaient de la fabrication. Ils connaissaient le process. Ils pouvaient passer au bureau d'études. Ils pouvaient revenir en fabrication. Ils pouvaient vendre. Hein, sur mes 13 commerciaux, la moitié vient de la fabrication, des anciens contrôleurs, d'anciens régleurs. Aujourd'hui, le gamin qui a fait HEC, on ne peut rien en faire d'autre que du contrôle. Non, rigolez pas. On continue à sortir des fournées de gens qui sont totalement inadaptés au monde qui va venir. Parce que ce monde-là, ça sera forcément un monde de frugalité. Il y avait 5 actifs pour un retraité, quand on a calculé ma retraite. Il y en a un 25 maintenant. On va avoir la frugalité. Frugalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire usage et non plus possession. Moi, j'ai cru que le bonheur, c'est la possession. J'ai 6 motos encore, j'ai qu'un cul à foutre dessus. J'ai cru que le bonheur, c'est la possession. J'ai 3 engins volants, il y en a 2 que je me suis construit. Enfin, c'est quand même des engins volants. C'est fini, ça. La génération suivante, elle n'aura plus ça. Elle aura d'autres choses. On va vers le partage. Pourquoi avoir chacun une tondeuse à gazon? Pourquoi t'as 5 ans une tondeuse à gazon? Et la louer que 6 mois par an, il y a 6 mois, on s'en sort pas. On revient vers le local. On va vers une forme d'altruisme. On va vers une autre dimension que le fric, le fric, le fric, le fric. Hein, le fric, c'est la respiration de l'entreprise, c'est pas son but. Le but de votre vie, c'est pas de respirer. La respiration, c'est le moyen majeur, point barre. D'accord? Le but de l'entreprise, c'est de durer, comme vous, comme moi. Comme un arbre, on est là pour durer, c'est le but de l'entreprise, durer, pérennité, changer de métier. Nous, on vient des siphons de lavabo, on est passé par les compteurs d'eau, on fait des pièces automobiles, on commence à faire des moteurs au rendement, des trucs qui tuent les bactéries, pour changer de métier, pour rester dans ce village, pour durer. Et puis, il faut parler ouvrier. Quand je t'entendais, là, je me dis, putain, elle vole l'eau, la gamine, hein, mais elle va finir par voler tout seul. Nous, on parle de nombre d'emplois créés, on peut pas dire, c'était l'affaire, ça fait tant de cash, non, c'est combien d'emplois? Parce qu'une affaire à 5 emplois, c'est. Là, ils ont rentré une affaire à 49 emplois. 49 emplois, on se défonce, hein. C'est le nombre de mois de salaire. Hein, CE, le comité d'entreprise en France, tous les mois, on annonce les résultats. On vient de gagner 300 000 francs, on en est à 300 000 euros, pardon, on en est à 5 millions depuis le début de l'année. Et puis, ça fera peut-être pas 17 mois de salaire, mais on en a 16 mois et demi. On raisonne le nombre de pièces bonnes par heure. On ne dit pas qu'il faut baisser les coûts de 5%. On va dire, merde, on a emmerdé chez Volkswagen. On explique pourquoi d'abord. Il y a un connard d'Italien qui nous fait chier, merde. On ne peut pas faire 10 pièces en plus à l'heure. Et voilà, 10 pièces en plus à l'heure, va proposer. Et là, il y a le dialogue qui s'instaure. Faire baisser les coûts de 5%, ça ne veut rien dire, ça. Alors c'est vrai que cette espèce de casse de contrôleur, là, vous parlez en des. S'il pouvait, il parlerait latin. Hein? Comment voulez-vous que l'ouvrier comprenne? L'ouvrier, déjà, l'ouvrier qui reçoit les commandes, ça change tout. Vous verrez que dans le film, vous passerez demain, nos ouvriers, moi, c'est au Japon que j'aurai des ouvriers, pas des ingénieurs. Un ouvrier, c'est ce qu'il faut regarder sur une machine, le mec. Hein? Et ce qu'il voit une combine, il la remettra tout de suite sur sa machine derrière. Hein. C'est les ouvriers, moi, les clients. Quand ils reviennent de Roumanie, ils sont un peu traumatisés, les mecs. Hein. Putain, il faut vraiment qu'ils gagnent de l'argent, Renault, faire une usine toute neuve là-bas, pourquoi ils ne l'ont pas fait chez nous, alors qu'on les fournit, etc. L'instinct de conservation, la reconnaissance, on en a parlé un peu. Hein. Il faut arrêter. En conclusion, il y a un philosophe qui a dit une chose très juste. Il y a un congrès APM qui était remarquable à Marseille sur la renaissance. Comment les entreprises doivent renaître? C'est-à-dire abandonner, n'améliorer jamais l'existant. Il y en a marre de ce truc-là. Il faut imaginer autre chose. Tant qu'on améliore l'existant, on fait perdurer les dysfonctionnements. La mini-usine, c'est pas l'amélioration des relations entre le service réception, le service découpe, non, c'est autre chose qui a tué les services. C'est pour ça qu'on n'a plus de services. De même que la République a tué la monarchie sans être l'extrapolation de la monarchie. Demain n'a jamais été l'extrapolation d'hier et d'aujourd'hui. C'est les parasites, au fond, c'est les business plans, les trucs et les machins. C'est pour ça que ça marche pas. Il ne faut pas améliorer l'existant. Hein? L'analyse que tu as faite, qui est pertinente, qui est intéressante, hein? Mais c'est vrai qu'il y a un fiasco complet. Alors, la force de Marx aussi, c'est qu'il disait, il y a ceux qui ont, il y a ceux qui font. Ceux qui ont qui le capital, ou ils ont confiance dans leurs salariés, ils leur foutent la paix, ou il n'a pas confiance et ils changent le directeur. Mais si ceux qui ont vont s'occuper, vont faire, à ce moment-là, il faut que ceux qui font aient. Et ce n'est pas nécessairement bon que les ouvriers aient. Parce que l'ouvrier, quand il a gagné 5 millions, il a tendance à vouloir le partager. Hein? Alors que celui qui peut entendre, ça attend, il faut peut-être garder un peu pour investir. C'est pour ça que les coopératives pures et dures n'ont jamais marché. Les coopératives sans Fagor marchent, mais je connais l'explication pour en parler là-dessus. Alors ton truc, c'est vrai, mais c'est le problème d'une fin de cycle. Ça, plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Et on donne le pouvoir à des incompétents. En ce moment, tu as un mec qui est avocat, qui n'a jamais plaidé, qui est en train de négocier pour Alstom. Montebourg. Je vois bien le fil d'une épicerie à ce connard, là, pour ce que ça donne. Et de quoi il se mêle? L'État a 0,9% des actions là-dedans. Non, mais attends, quand vous regardez, l'État a 0,9% d'Alstom, le gros propriétaire, c'est Bouygues, il n'a pas le droit à parole. Quoi? De quel... Tu vois, c'est une déviance complète. Et ce que tu mets là en avant, c'est aussi une déviance de cette fin de cycle. Hein. Et de toute façon, moi, malheureusement, ce que je pense, c'est que les pauvres chômeurs qu'on a, c'est les victimes de ces sociétés qui sont restées dans le contrôle. Absolu, total. Hein, parce que quand tu remontes, tu te rends compte qu'il y a ça. Et moi, je vois dans mes émules qui se développent, même nous, on a rentré 49 emplois dans la période actuelle, c'est quand même pas courant. C'est ceux qui sont venus voir la confiance. Et le problème de la confiance, il faut qu'elle soit totale. Alors demain, j'en vois certains, ceux que je vois pas, demain, parce que vous venez pas, vous avez le droit, hein. Vous faites favi.com, parce que mes bouquins, les achetez pas, j'ai mis ça en ligne. Vous faites favi.com. Avant, il fallait passer par le site Favi. Quand vous faites favi.com, monsieur Google, mais par Google, hein, fait par Google, a ressorti histoire, système, fiche outil. Et là, j'ai mis l'essentiel de mes quatre bouquins. Donc, ça vous amuse d'aller plus loin dans la réflexion, vous regardez ça, et puis vous vous démerdez. Moi, le conseil, je ne sais pas faire. Hein. Tout ce que je sais faire, c'est témoigner. Alors, plus ça va, plus je témoigne en mon nom comme au nom de mes émules, dont certains étaient plus loin que moi, parce que plus jeunes, hein, et que je commence à faire intervenir dans les grandes écoles, parce qu'on est deux, trois patrons charismatiques, comme ça en France, qui témoignent depuis très longtemps. De cette, vers la confiance, hein, que ce soit Guinère, que ce soit Mutsanutaire, c'est un émule Favi de 20 ans. Mais on témoigne de ce qu'on a fait et on témoigne du fait que ça dure. D'accord ? Alors que les jeunes là, témoignent de la difficulté qu'ils ont par les temps présents. Parce qu'encore une fois, moi, les contrôleurs, je pouvais en faire autre chose, par exemple. Le gamin d'aujourd'hui, le contrôleur, il ne peut rien en faire d'autre. Hein. Allez, anime maintenant, toi.
Oui, on va faire une petite.
Les gamines, t'as vu, je n'ai pas. Hein.